Toutes les phrases que vous allez entendre, je les ai cueillies comme on cueille des fleurs dans le journal intime de Jules Renard.
Sacha Guitry.
Œuvre admirable, véritable bréviaire de l'homme de lettres. Livre unique, émouvant et qui n'est point connu encore, mais qui prendra sa place un jour parmi les plus beaux de notre langue, car il contient des aveux déchirants et d'adorables images.
Ça peut pas faire de mal.
Voici quelques aveux. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. L'entraînement du porte-plume. Toute seule, la pensée va où elle veut. Avec le porte-plume, elle n'est plus libre. Elle tire de son côté, lui du sien. Et ce que je viens d'écrire n'est déjà plus ce que je voulais écrire.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le talent est une question de quantité. Le talent, ce n'est pas d'écrire une page, c'est d'en écrire 300. Il n'est pas de roman qu'une intelligence ordinaire ne puisse concevoir, pas de phrase si belle qu'elle soit qu'un débutant ne puisse construire. Reste la plume à soulever, l'action de régler son papier, de patiemment l'emplir. L'effort n'hésite pas. Ils s'attablent, ils sueront. Ils iront au bout, ils épuiseront l'encre, ils useront le papier. Cela seul les différencie, les hommes de talent, des lâches qui ne commenceront jamais. En littérature, il n'y a que des bœufs. Les génies sont les plus gros, ceux qui peinent 18 heures par jour d'une manière infatigable. La gloire est un effort constant. La gloire, le talent et le génie furent les obsessions constantes de Jules Renard, l'auteur de Poils de carotte évidemment, mais surtout d'un journal bouleversant que nous allons lire ce soir. Né en 1864, Jules Renard grandit dans la Nièvre, à Chitry, une ville dont il sera longtemps le maire. C'est le petit dernier de la famille, l'enfant de trop, qui a des rêves d'artiste. Alors il monte à Paris, passe son bac, épouse Marinette et commence à écrire dans les journaux. Très vite, il se fait un nom et côtoie le beau monde. Sacha Guitry, Sarah Bernard, Léon Daudet, Edmond Rostand et tant d'autres. On aime son ironie et sa répartie qu'il exerce chaque jour en public, mais on connaît moins sa tendresse, celle qui est si présente dans un carnet tenu secret jusqu'à sa mort en 1910. Pendant 20 ans et presque 1000 pages, Jules Renard réfléchit à la vie, à l'amour, l'amitié et la littérature. Drôle et désespéré, féroce et enthousiaste, l'écrivain exprime là tout ce qu'il n'a pas dit aux autres, tout ce qu'il ne dira jamais. Il se révèle enfin tel qu'il est, pétri de doutes. Ne pas se tromper aux figures hautaines et silencieuses, ce sont des timides, dira-t-il en parlant de lui. Et je dédie cette émission à une amie, pas si timide, Germaine Defflies. Le journal s'ouvre sur l'année 1887 et il court jusqu'en 1910. En voici quelques fragments, des réflexions, des anecdotes, parfois des aphorismes. 20 juin 1887. La nostalgie que nous avons des pays que nous ne connaissons pas n'est peut-être que le souvenir de régions parcourues en des voyages antérieurs à cette vie. 4 août. Entre Ronsard et André Chénier, on cherche en vain un poète. Je ne dis pas un rimeur, un versificateur, un aligneur de mots, mais un poète. Pas un. Appelons poésie une création par l'image et le rêve. Février 1888. Un mot si joli qu'on le voudrait avec des joues pour l'embrasser. Mettre de côté toute la quantité possible de possible et aller droit. Tu ne seras rien. Tu as beau faire, tu ne seras rien. Tu comprends les plus grands poètes, les plus profonds prosateurs, mais bien qu'on prétende que comprendre c'est égaler, tu leur seras aussi peu comparable qu'un infime nain peut l'être à des géants. Tu travailles tous les jours, tu prends la vie au sérieux, tu crois en ton art avec ferveur, mais tu ne seras rien. Tu n'as qu'à vouloir. Mais il te manque de pouvoir. Tu ne seras rien. Pleure, emporte-toi, prends ta tête entre tes mains, espère, désespère, reprends ta tâche, roule ton rocher, tu ne seras rien. Quel est l'astre, le monde, le sein de Dieu, la nouvelle vie où tu compteras parmi les êtres, où l'on t'enviera, où les vivants te salueront très bas, où tu seras quelque chose. Avril 1889. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pensé, tous mes paradoxes forcés, ma haine du convenu, mon mépris du banal, ne m'empêche pas de m'attendrir au premier jour de printemps, de chercher des violettes au pied des haies parmi les étrons et les papiers pourris, de jouer au chic avec les gamins, de regarder des lézards, des papillons à robe jaune, de rapporter une petite fleur bleue à ma femme. Éternel antagonisme. Effort continu pour sortir de la stupidité et inévitable rechute. Heureusement. Mai. Les hommes ? Oh, ça me fait faire pipi. Juillet. Quiconque lit trop ne retient rien. Choisis ton homme. Relis. Relis-le pour te l'assimiler. Le digérer, comprendre, c'est égaler. 17 mars. Je passe un bien vilain moment. Tous les livres me dégoûtent. Je ne fais rien. Je m'aperçois plus que jamais que je ne sers à rien. Je sens que je n'arriverai à rien. Et ces lignes que j'écris me paraissent puériles, ridicules et même et surtout absolument inutiles. Comment sortir de là? J'ai une ressource, l'hypocrisie. Je reste enfermé des heures et on croit que je travaille. On me plaint peut-être, quelques-uns m'admirent, et je m'ennuie, et je bâille. L'œil plein de reflets jaunes, des reflets de jaunisse de ma bibliothèque. J'ai une femme qui est un fort et doux être plein de vie, un bébé qui illustrerait un concours, et je n'ai aucune espèce de force pour jouir de tout cela. Je sais bien que cet état d'âme ne durera pas. Je vais ravoir des espérances, de nouveaux courages. Je vais faire des efforts tout neufs, si encore ces aveux me servaient. Mais je ne me crois pas en puissance assez de vie. Je mourrai avant l'heure où je me rendrai, où je deviendrai un ivrogne de rêverie. Mieux vaudrait casser les pierres, labourer des champs. Je passerai donc ma vie, courte ou longue, à dire « mieux vaudrait autre chose ». Pourquoi ce roulis de notre âme, ce va-et-vient de nos ardeurs? Nos espérances sont comme les flots de la mer. Quand ils se retirent, ils laissent à nu un tas de choses nauséabondes, de coquillages infects et de crabes puants. Est-ce assez stérile, la vie d'un homme de lettres qui n'arrive pas? Mon Dieu, je suis intelligent, plus intelligent que bien d'autres. C'est évident, puisque je lis sans m'endormir la Tentation de Saint-Antoine. Mais cette intelligence, c'est comme une eau qui coule, inutile, inconnue, où l'on n'a pas encore installé un moulin. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas encore trouvé mon moulin. Le trouverai-je jamais. Mars 1891. Écrire à la manière dont Rodin sculpte. Décembre 1891. J'avoue très humblement mon orgueil. Juin 1892. Le courage de dire au coiffeur « Je ne veux pas de votre cosmétique. » Mars 1893. Surmenons-nous pour vivre plus vite et mourir plus tôt. 28 avril. Oui, je sais. Tous les grands hommes furent d'abord méconnus. Mais je ne suis pas un grand homme et j'aimerais autant être connu tout de suite. 2 juillet. Un jeune homme que je ne nommerai pas parce qu'il s'appelle Rognan me disait hier « Je ne connais Virgile que par la traduction, mais j'en suis sûr, vous lui ressemblez, et vous avez en vous quelque chose de grec. » Et il insistait de façon à me prouver qu'il ne se trompait pas.
Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux, comme le soleil fait serein ou pluvieux l'azur, dont il est l'âme et que sa clarté dort. Tu peux m'emplir de brume ou m'inonder d'aurore.
13 juillet. Victor Hugo, seul, a parlé. Le reste des hommes balbutient. Quelques-uns peuvent lui ressembler par la barbe, la largeur du front, les cheveux indéracinables, les casseurs de ciseaux, effroi des barbiers et la préoccupation de jouer un rôle comme grand-père ou comme homme politique. Mais si j'ouvre un livre de Victor Hugo au hasard, car on ne saurait choisir, je ne sais plus. Il est alors une montagne, une mer, ce qu'on voudra, excepté quelque chose à quoi puissent se comparer les autres hommes. Octobre. Il faut faire d'abord volontairement, avec plaisir, ce qu'on fait. Le résultat importe peu. On ne le prévoit pas et on l'apprécie mal. Mais l'auteur s'est satisfait lui-même. C'est déjà ça. 3 novembre. Enfin, tout de même, n'est-ce pas ? Tout de même.
Le 21 septembre, je reprends ce journal dans la fenêtre de ma chambre. Passe un oiseau banal. Il y a la grève du métro. Tout à l'heure, ma mère est passée. Elle m'a dit que je fumais trop. Puis elle a parlé du passé. J'ai vu au soleil de la rue marcher une femme au bras nu. Samedi 3 décembre, je n'ai plus rien écrit. Depuis ce jour de fin septembre, où il y a eu ce cri. C'était dans le jardin voisin, ses bras nus enlaçaient quelqu'un. Il a neigé tout ce matin. Je lui ai parlé dans la rue. J'ai dit, je ne sais plus. Mais ce soir, c'est chez moi qu'elle vient. Dimanche 12 avril, le printemps est en ville. J'écris ce soir à l'encre rose. Il s'est passé des choses. Moi qui disais que le mariage n'était pas encore de mon âge. Ma mère avait un chapeau blanc. Mes deux frères avaient mis des gants. C'était en janvier, et pourtant on croirait qu'il y a longtemps. Nous sommes fin septembre, je ne sais plus le jour. Me revoici dans cette chambre, un homme sans amour. Je n'ai pas bien compris pourquoi. N'en parlons plus, n'en pleurons plus. Je la regarde qui s'en va. Dans le soleil, la rue est sale. Cette douce femme au bras nu que je vois sortir de l'âge. Cette douce femme au bras nu que je vois sortir de l'image.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Vous dites dans le discours que vous avez prononcé que Jules Renard était un révolté.
François Mitterrand.
Son comportement toujours à distance, critique, sévère, pour lui-même aussi d'ailleurs. C'était un observateur aigu. Son écriture est très belle, précisément parce qu'elle est aiguë elle aussi. J'ai le sentiment que de tous les journaux d'écrivains de qualité qui ont été publiés tout le long du XXe siècle, c'est le meilleur. C'est tellement plus alerte, plus vivant, parce qu'il réagit sur chaque chose, parce qu'il est plus critique. Il n'est jamais conformiste. C'est bien supérieur au journal de Gide ou à celui de Valéry.
18 janvier 1894. En cet instant, si je frappais sur mon cœur, il rendrait un son argentin. 22 février. Je t'aime comme cette phrase que j'ai faite en rêve et que je ne peux plus retrouver. 28 mars. Penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. 2 avril. Les gens heureux n'ont pas de talent. Ma littérature n'est qu'une continuelle rectification de ce que j'éprouve dans la vie. Où je serais bien? Entre deux rayons d'armoire sur une couche de linge blanc. J'écrirai un livre qui étonnera mes amis. Je ne me croirai pas supérieur aux autres comme Goncourt. Je ne dirai pas de mal de moi pour qu'on m'excuse comme Rousseau. Je tâcherai seulement de voir clair, de faire en moi la lumière pour les autres et pour moi. J'ai 30 ans. Comment ai-je vécu jusqu'ici? Et maintenant que ferai-je? Me laisserai-je aller? Je crois qu'une fois qu'on m'a bien vu, l'on ne m'oublie pas. Je suis d'une vanité qui me stupéfie quand je la considère, l'attaque passée. Si Paris m'offrait de me couronner de laurier comme autrefois Pétrarque, par une démonstration officielle, je ne serais pas étonné et je saurais bien justifier cette faveur. 15 novembre. Pour arriver, il faut faire des saletés ou des chefs-d'œuvre. Êtes-vous plus capable des unes que des autres ? 20 novembre. Je n'ai réussi nulle part. J'ai tourné le dos au Gil Blas, à l'Écho de Paris, au Journal et au Figaro, à la revue hebdomadaire. Pas un de mes livres n'arrive au second tirage. Je gagne en moyenne 25 francs par mois. Si mon ménage reste pacifique, c'est grâce à une femme douce comme les anges. J'ai vite assez de mes amis. Quand je les aime trop, je leur en veux. Et quand ils ne m'aiment plus, je les méprise. Je ne suis bon à rien, ni à me conduire en propriétaire, ni à faire la charité. Parlons de mon talent. Il me suffit de lire une page de Saint-Simon ou de Flaubert pour rougir. Mon imagination, c'est une bouteille, un cul de flacon déjà vide. Avec un peu d'habitude, un reporter égalerait ce que, plein de suffisance, j'appelle mon style. Je flatte mes confrères par lettres et je les déteste à vue. Mon égoïsme exige tout. Une ambition de taille à regarder par-dessus l'arc de triomphe et ce faux dédain des médailles. Si l'on m'apportait la croix d'honneur sur une assiette, je me trouverais mal de joie et je ne reviendrais à moi que pour dire « remportez ça ». Le pli que j'ai au front se creuse chaque jour davantage et bientôt les hommes auront peur de le regarder et se détourneront comme si c'était une fosse. Je ne travaille même pas comme quelqu'un qui veut mériter l'abrutissement. Et malgré cela, il y a à ma parole des quarts d'heure où je suis content de moi. Janvier 1895. Pas assez travaillé. Me répéter que la littérature est un sport, que tout dépend de la méthode, qu'on appelle aujourd'hui l'entraînement, aucun danger de dépasser les limites. Pas assez sorti, il faut voir les gens pour les remettre à la place qu'ils méritent. De plus en plus égoïste, rien à faire. Rechercher les apparences, tâcher de n'avoir de bonheur qu'à rendre les autres heureux. Trop mangé, trop dormi, eu trop peur de l'orage. Trop dépensé, il s'agit non pas de gagner beaucoup d'argent, mais de dépenser peu. Trop regardé au kiosque pour voir si l'on me reproduisait, trop lu les journaux pour y trouver mon nom cité, trop envoyé, trop dédicacé de livres, trop aimé mes enfants par pose de bon papa, trop étalé l'indifférence de mon cœur à l'égard de ma famille, trop conseillé aux autres ce que je devinais qu'il fallait leur conseiller pour leur faire plaisir, aimé trop de choses pour les autres et non pour moi-même, trop parlé de moi. Oh oui, trop, trop. Je ne suis qu'un misérable, je le sais. Je n'en suis pas plus fier. Je le sais et je continuerai. 19 février 1895. On n'est rien avant 30 ans, 35 ans, et je m'aperçois qu'il faut toujours reculer la date. 13 décembre. Si vous connaissez la vie, donnez-moi son adresse. 8 janvier 1896. Vers la clarté, par n'importe quel chemin. 8 avril. Il ne faut pas rire tant qu'on n'est qu'à l'extérieur des choses, mais il faut d'abord y entrer. Il faut rire du milieu des choses. Plus clairement, je ne ris pas de toute politique, car il peut en être de belles que j'ignore, mais je ris des hommes politiques que je connais et de la politique qu'ils font sous mes yeux. Que le rire soit, non pas frivole, mais sérieux et intérieur, et d'une philosophie consciente. On a le droit de rire des larmes que si l'on a pleuré. Le ridicule n'existe que par moments, mais rien n'est tout à fait ni toujours ridicule. Il ne faut rire que des belles choses qu'on peut aimer. Le banal ne fait pas rire. Avant que de rire des grands hommes, il faut savoir les aimer de toute son âme. Le rire est inattaquable puisqu'il rit de lui-même. Mais il meurt tout seul au milieu des figures graves et pensives.
Jean Loussieff.
Dans le journal de Jules Renard, c'est un livre de chevet, permanent et définitif. J'en lis 5 pages par jour, donc j'en ai encore pour 20 ans. C'est très bien le journal de Jules Renard. C'est un livre qu'on pourrait emmener sur une île déserte. Il y a notamment des choses du genre « Il avait plus de cheveux blancs que de cheveux ».
« 1er janvier 1897. Aujourd'hui, dès le crépuscule, il me vient fortement à la pensée pour mes étrennes d'écrire ce livre dont le titre me plaît, les habitudes, les goûts, les idées d'un homme de 30 ans. J'ai la certitude que ce sera un beau et bon livre et il me rendra célèbre. J'ai presque 33 ans, mais je tiens à mon titre et je ne crois pas avoir fait de progrès remarquables depuis 3 ans. Sous aucun prétexte, je ne mentirai. Je me pose ces questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? J'y répondrai avec sincérité, car je veux avant tout m'éclairer moi-même. Je ne me crois ni ignoble, ni naïf. Réellement, je vais me regarder à la loupe. Je n'ai d'autre besoin que de me dire la vérité. J'ai conscience que jamais personne ne l'a dite. Je n'accepte pas les plus grands. La vérité est-elle bonne à dire? Peu importe. Sera-t-elle intéressante, passionnante, réconfortante? C'est le moindre de mes soucis. Servira-t-elle à d'autres qu'à moi? Cela m'est égal. Qu'on ne croie pas m'affliger en me traitant d'égoïste. Reprochez-moi plutôt de respirer. Si j'avais connu Jules César, peut-être aurais-je raconté sa vie et non la mienne. Non, je ne crois pas. Ou j'aurais fait de lui un personnage aussi petit que moi. Je ne veux pas m'en faire accroire. Je me tiens et ne me lâcherai pas avant que de me connaître. Est-ce que j'imagine être un original? Je suis curieux de savoir ce qu'est un homme semblable aux autres. Ne me souhaitez pas une bonne année. Souhaitez-moi de finir ce que je commence aujourd'hui, et j'aurai passé la meilleure des années de ma vie. Je crois que vous me ressemblez, mais que vous parlez autrement, et que vous ne savez pas comme moi ce que vous dites. Vous vous trompez volontairement. Je me rends malheureux. Je vous assure que vous avez tort de me plaindre. D'autres jouent avec eux-mêmes. Je fixe sur moi un regard sérieux et je n'ai pas envie de rire. Mais je suis fou. J'ai de l'ordre et vous me passeriez difficilement une pièce fausse. S'il arrive que je m'échappe, je me vois trouble. Je pose ma plume et j'attends. Vous êtes myope? J'ai la vue que m'a donnée ma mère, je n'y peux rien. Mais vous remettez vos livres à un libraire? Oui, quand j'aurai terminé. Mais jusqu'à ce que j'aie écrit le mot « fin », je ne penserai ni au libraire, ni à l'argent, ni au succès. Je ne renonce pas à l'ambition, c'est un feu qui brûle en moi, à l'étouffer, mais qui brûle toujours. Un homme épris de la vérité n'a besoin d'être ni poète, ni grand. Il est l'un et l'autre, sans le chercher. Mais aurais-je le courage? Non, le courage je l'ai, mais la patience de chaque instant. « 19 juin 1897, 1h30. mort de mon père. On peut dire de lui, ce n'est qu'un homme, un simple maire de pauvre petit village, et cependant parler de sa mort comme celle de Socrate. Je ne me reproche pas de ne pas l'avoir assez aimé, je me reproche de ne l'avoir pas compris. Après le déjeuner, j'écrivais quelques lettres. Le timbre de la porte cochère sonne. C'est Marie, la petite bonne de papa, qui vient me dire qu'il me demande. Pourquoi elle l'ignore ? Je me lève, seulement étonné. Arrivé à la maison, je vois maman dans la rue. Elle crie « Jules ! Oh, Jules !» J'entends « Pourquoi s'est-il enfermé à clé ?» Elle a l'air d'une folle. À peine plus agitée qu'avant, je veux ouvrir la porte. Impossible. J'appelle, il ne répond pas. Je ne devine rien. Je suppose qu'il s'est trouvé mal ou qu'il est au jardin. Je donne des coups d'épaule et la porte cède. De la fumée et une odeur de poudre. Et je pousse de petits cris. « Oh papa, papa, qu'est-ce que tu as fait là ?» Et pourtant je ne crois pas encore. Il a voulu plaisanter. Et je ne crois pas à son visage blanc, à sa bouche ouverte, à ce qui est noir là, près du cœur. Un voisin qui est entré le second dans la chambre me dit « Il faut lui pardonner. Il souffrait trop, cet homme-là. » Pardonner quoi ? Quelle idée ! Je comprends à présent, mais je ne sens rien. Je vais dans la cour et je dis à ma femme qui a ramassé maman par terre « C'est fini, viens. » Nous restons tous les deux. Il est là, couché sur le dos, jambes étendues, buste incliné, tête renversée, bouche, yeux ouverts. Entre ses jambes, son fusil, sa canne du côté de la ruelle. Ses mains, libres, avaient lâché la canne et le fusil. Elles étaient encore chaudes sur le drap, pas crispées. Un peu plus haut que la ceinture, une place noire, quelque chose comme un petit feu éteint. Non, il ne nous avait pas prévenus. Nous parlions souvent de la mort, pas de la sienne. Je serais un coupable et un sot si je ne savais pas dégager de cette mort la belle leçon qu'elle nous donne. On ne peut pas pleurer et penser, car chaque pensée absorbe une larme. « 21 juin. On passe devant la mairie et devant l'église. Le soleil nous chauffe la tête. Par toutes les routes, il arrive du monde en retard. Le cimetière, la fosse est là, dans un coin, près de la route. Je voudrais expliquer le sens de cette mort, mais plus rien. On jette les immortels dans la fosse. Un peu de terre s'éboule. Pas de défilé pour nous serrer la main. On commence à s'éloigner. Je reste là. 17 septembre. Moi qui n'aimais pas la chasse et qui n'y voyais qu'un jeu de barbares, voilà que je l'aime pour faire plaisir à mon père. Chaque fois que je tue une perdrix, je jette de son côté un coup d'œil qu'il comprend bien. Et le soir, en rentrant, si je passe devant la porte de son cimetière, je lui dis « Tu sais, mon vieux, j'en ai 5. » Oh, étrangler une perdrix, lui serrer le cou, sentir entre ses doigts cette petite flûte de vie. 9 octobre. Le but, c'est d'être heureux. On n'y arrive que lentement. Il y faut une application quotidienne. Quand on l'est, il reste beaucoup à faire, à consoler les autres. Novembre. Notre intelligence, c'est une bougie en plein vent. 28 décembre 1897, première de Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Je vais dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un âne. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Cyrano, des fleurs, rien que des fleurs, mais toutes les fleurs à notre grand poète dramatique. On ne savait plus, on barbotait. L'invasion du socialisme au théâtre déroutait les plus indifférents. L'artiste devait-il donc s'occuper de ce qui ne le regarde pas, poser gauchement des problèmes insolubles et s'abaisser à savoir quotidiennement le prix du pain ? Aurions-nous des Musset économistes et des Marivaux apôtres ? D'un seul coup, le cothurne Rostand a repoussé ses ordures et d'un seul effort remis debout l'art isolé, souverain et magnifique. On va pouvoir encore parler d'amour, se déjouer individuellement, pleurer sans raison et s'enthousiasmer pour le seul plaisir d'être lyrique. Notez que la Providence, décidément il y a un Dieu, a voulu que cette belle restauration de l'art se fît entre le théâtre des mauvais bergers et le théâtre des deux gosses, à égale distance des fausses pensées et des faux rires mêlés de fausses larmes. Ainsi, il y a un chef-d'œuvre de plus au monde. Réjouissons-nous, reposons-nous, flânons, allons de théâtre en théâtre, écoutez les dernières niaiseries, nous sommes tranquilles. Quand il nous plaira, nous retrouverons le chef-d'œuvre. On peut s'y appuyer, s'y abriter, s'y sauver des autres et de soi-même. Comme c'est une preuve de santé, la fièvre. Comme je suis heureux, que je me porte bien. L'amitié de Rostand me console d'être né tard et de n'avoir pas vécu dans l'entourage familier de Victor Hugo. Je vous jure qu'en toute lucidité, je me sens bien inférieur à ce beau génie lucide qu'est Edmond Rostand. Sa supériorité, c'est qu'il nous accable et que nous ne trouvons rien à lui dire. Si nous avions fait son Cyrano, il nous trouverait quelque chose, lui. Janvier 1898. Je suis un homme qui ne sait pas et qui voudrait savoir. Je suis un homme toujours étonné qui tombe à chaque instant de la lune. 10 février. Un ami me dit « Oh, votre réponse n'est pas forte, renard. Si l'on sténographiait notre conversation, permettez, cher ami, pourquoi aurais-je toujours de l'esprit et vous jamais ?»
Il y a le fameux passage où il s'enthousiasme sur Zola, n'est-ce pas ?
Michel Tournier.
C'est l'indignation admirable, n'est-ce pas ? Parce qu'il a été un Dreyfusard passionné, Jules Renard. Alors là, vous avez une page entière, deux pages qui sont vraiment de la polémique. Mais regardez l'allure, hein, ça a beaucoup d'allure.
28 février 1898. Zola est condamné à 1 an de prison et 1 000 francs d'amende. Et moi, je déclare que je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant par sa condamnation, que je n'écrirai plus jamais une ligne à l'écho de Paris, qu'ironiste par métier, je deviens tout à coup sérieux pour cracher à la face de notre vieux pantin national, Monsieur Henri Rochefort, que je me sens un goût subi et passionné pour les barricades, et je voudrais être ours afin de manier aisément les pavés les plus gros, que puisque nos ministres s'en fichent, à partir de ce soir, je tiens à la République, qui m'inspire un respect, une tendresse que je ne me connaissais pas. Je déclare que le mot justice est le plus beau de la langue des hommes et qu'il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus. Zola est un homme heureux. Il a trouvé sa raison d'être et il doit remercier ses pauvres jurés qui lui font cadeau d'une année d'héroïsme. J'acquitte Zola. Loin d'organiser le silence autour de lui, il faut crier « Vive Zola !» Il faut hurler ce cri de toutes nos profondeurs. Avril 1898. Si je ne suis plus jeune, je voudrais bien savoir à quelle heure, de quel jour ma jeunesse m'a quitté. Avoir dans une cabane des rêves d'empereur. Je rentre, l'angoisse au cœur parce que j'ai regardé le soleil couchant, entendu chanter les oiseaux et que je n'aurais eu que quelques jours cette terre que j'aime tant et qu'il y a tant de morts avant moi.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux.
On entend chuchoter le vent dans la campagne. On entend chanter la montagne.
J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout où l'on me voit.
Que la nuit, belle nuit, que ce ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Et dis-moi, qu'il n'est pas de plus charmant bonheur
que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux,
que ta main qui joue avec ma main.
Je ne sais rien de toi, tu ne sais rien de moi, nous ne sommes que deux vagabonds. Moi, fille des bois, toi, mauvais garçon.
Ta robe est déchirée, je n'ai plus de maison, je n'ai plus que la belle saison.
J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit
que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur,
et dis-moi qu'il n'est pas le plus charmant bonheur
que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux,
que ta main qui joue avec ma main.
À propos des femmes, Jules Renard n'a jamais caché sa misogynie, mais il fut aussi un grand amoureux qui ne résistait pas à un joli sourire. Voici un petit florilège de ses meilleures fulgurances. Appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. La femme est un roseau dépensant. Il y a des moments où l'on en veut à mort à toutes les jeunes filles qu'on rencontre parce qu'elles ne vous jettent pas leur cœur et 20 000 livres de rente. L'amour, tu aimeras. C'est-à-dire que tu voudras coucher avec une femme et que tu auras quelque temps du plaisir à coucher avec cette femme. La plus extraordinaire femme qu'on ait jamais rencontrée est celle qu'on vient de quitter. Nous ne n'aimons pas de façon sentimentale que les femmes de nos rêves, de nos sommeils, celles qui déposent dans notre cœur une petite fleur bleue qui vit encore une heure, une matinée après notre réveil. Le je ne sais quoi d'une femme, il n'y a que ça qui compte. À chaque instant, j'ai envie de m'enfuir à l'appel d'une autre femme qui me ferait signe et que je rencontrerais dans un parc et qui lirait un livre sous de grands arbres. L'échancrure de corsage d'une jeune femme pâle et qui ouvre un peu la bouche en l'air nous trouble plus que tant d'obscénité. 22 janvier 1900, mort brutale de son frère Maurice à Paris. Un employé des chemins de fer de l'État vient nous dire que Maurice est tombé en syncope et qu'on ne peut le ramener. Impression de maussaderie. Je ne pense pas à la mort. Je me rappelle les syncopes de papa. Je vais le ramener, moi, le secouer et lui dire que quand on est malade, on se couche. Rue de Châteaudun, numéro 42, des gens dans le vestibule, un petit monsieur gros, court, décoré, me dit « Votre frère est bien bas ». Puis à l'oreille, pour que Marinette n'entende pas, « Il est mort ». Le mot ne me fait rien. « Eh bien, dis-je, où est-il ? » J'entends « Retenez, madame, ne la laissez pas monter ». Je prie avec une nervosité croissante qu'on me montre où il est. On monte. Il est là, étendu sur le canapé vert pâle, bouche ouverte, un genou ployé, la tête sur un bottin, dans la pose d'un homme fatigué. Il me rappelle mon père. Par terre, des taches d'eau, un torchon. Il est mort, mais ça n'entre pas. Marinette crie un peu, suffoque, demande un médecin. Je me passe plusieurs fois la main sur le front avec la conscience que ce geste est inutile et je demande comment c'est arrivé. Plusieurs fois, il s'était plaint de la chaleur, de tortillements à l'estomac. Au moment de quitter le bureau, il a tourné sur sa chaise. On l'a porté sur le canapé. Quelques suffocations, à peine des râles. Pas un mot. En 2 ou 3 minutes, c'était fini. Le médecin en chef appelé a tout tenté. Rien à faire. Angine de poitrine. Je peux m'asseoir et pleurer un peu. Marinette m'embrasse et je lis dans ses yeux l'effroi que dans 2 ans, ce sera mon tour. « Je ne ressens encore qu'une espèce de colère contre la mort qui se plaît à nous jouer de ses farces imbéciles. Je tâche de lire de loin la réclame imprimée en noir sur les tranches du bottin. J'écris des dépêches sur des bouts de papier et devant tout le monde, je crois bien que j'écris mal pour faire croire que je tremble, car ça n'entre toujours pas. Nous restons là. On lui a retiré ce qu'il avait dans ses poches. On m'emmène vers son bureau que je ne vois pas. Chauffé à la vapeur, il y a jusqu'à 20 degrés. Il avait le dos à la colonne montante. Il avait souvent dit « ils me tueront avec leur système de chauffage ». L'ambulance arrive. À deux, ils le descendent dans un fauteuil, la tête couverte d'une serviette. Je le vois ballotter. Comme il est grand et mou. Au bas de l'escalier, on le couche sur un brancard, puis on le porte à la voiture. Elle laisse derrière elle un sillage de gravité. La mort passe, et c'est notre parente à tous. Rue du Rocher, on le couche sur un lit. Je lui mets un mouchoir sur la tête. De temps en temps, je lève le mouchoir. Je regarde sa bouche un peu entrouverte. Il va respirer. Il ne respire pas. Il est déjà de pierre. La face jaunie et les traits se pincent. Je l'embrasse pour la dernière fois. Les lèvres collent au front dur et froid. Octobre 1900. Le meilleur de nous est incommunicable. Décembre. Rêver. Rêver éperdument et n'en rien faire paraître. Être des puits où dorment de pâles vérités. 16 janvier 1901. Victor Hugo était au centre de tout. Tâche d'être ton tout. Tiens-toi au centre de toi-même. Sois le Victor Hugo de ta vie intérieure et quotidienne. 5 mars. Plaire au public par des qualités originales. Voilà tout le problème. Rien de plus facile que d'être un audacieux désagréable. Tu es sans le vouloir un homme qui a de la chance. Écarte-la poliment. Et puis, essaie de ne rien accepter des mains que tu n'aurais aucun plaisir à serrer si elles ne t'offraient rien. 16 mars. Mais si tout de même il faut mourir, eh bien meurs. Ta mort fera comprendre au monde qu'il vaut mieux mourir que de cesser d'être artiste. 22 mars. L'amour, on ne sait plus ce que c'est. La chose est perdue, noyée dans un déluge verbal. Impossible de retrouver la réalité qui doit être simple et claire. Fin d'une mélancolie qui se passe, une tristesse bleue. On ne laisse à Paris que des fous, un soleil vaporeux, au loin des arbres fins comme des fumées, des champs peints de couleurs fines. Le semeur fait son geste et ne se doute pas qu'il est auguste. Il sème comme l'année dernière parce que c'est le moment. Les instruments agricoles fraîchement peints, vert vif ou rouge vif, plus rien que la nature et moi. Sur la nature fine, un soleil tendre luit. Le cheval se promène et la charrue le suit. Feuilles mortes pas enterrées, un sapin tout l'hiver est resté vert. Route lisible comme sur une carte, les saules dans l'eau jusqu'au cou. Février 1902. Oh, vous ne me ferez pas croire que vous n'avez jamais trompé votre femme, dit-elle. Est-ce que j'ai essayé de coucher avec vous? Non. Alors comment vous étonnez-vous que je ne l'ai tenté avec personne? Mars 1903. Il n'y a que les erreurs qui donnent du prix à la vérité. Juillet. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain rêve. Dites, vous viendrez? Novembre 1905, scène d'amour. Titre, le défi. Ça commence peureusement. Oh, vous ne m'aimeriez pas. Vous non plus. Enfin, si je vous embrassais comme ça, comment comme ça? Là, tout de suite, vous n'oseriez pas. C'est vrai. Ah, vous voyez, comme c'est malin de dire ça. Vous me donneriez une gifle. Moi, pas du tout. Vous ne me gifleriez pas si je vous embrassais? Non. Farceuse. Essayez. Comme c'est malin, essayez. Qu'est-ce que vous risquez, vous? Rien, d'être embrassé par un homme qui en vaut un autre. Moi, je risquerais une gifle. Ça vous ferait non bien mal? Il y a le déshonneur, la honte. Oh, une petite main de femme, qu'est-ce que vous voulez que j'inflige du déshonneur avec ça? Et puis je ne vous la donnerai pas. La main ? La gifle. Bien vrai ? Oh, écoutez, vous avez la tête dure. Il l'embrasse. Eh bien, vous n'avez pas reçu votre gifle. C'est pourtant vrai. Alors, je peux recommencer et continuer. Je ne serai pas giflé, mais vous allez vous moquer de moi jusqu'à la fin de vos jours. Il l'embrasse. Sinoui, ce qui m'arrive avec vous. Jamais je ne me suis trompé à ce point. Jamais je n'ai été aussi peu physionomiste. Je me disais, en voilà une qui se moquerait de moi. C'est au point que je n'avais même pas l'idée d'avoir l'idée. Oh, que je suis contente. Moi aussi. Je suis en proie à une violente émotion. Nous ne pouvons pas rester là. Nous ne pouvons pas en rester là. On nous verrait, il faut partir chercher un nid avec deux oreillers dedans. Et ma main seule suffira. La porte s'ouvre, l'épouse entre. La dame est aussi naturelle que si rien ne s'était passé. Sans date. Dieu n'est pas une solution, ça n'arrange rien. Plus aucun goût pour la littérature qui rapporte, rien, que regarder la vie et se contenter de ce qu'elle donne. Si tu crains la solitude, n'essaye pas d'être juste. Les hommes et les femmes sont si mauvais, si incorrigibles, que je marche toujours avec un petit air penché. 22 février 1906, 42 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? Pas grand-chose. Et déjà, je ne fais plus rien. J'ai moins de talent, d'argent, de santé, de lecteurs, d'amis, mais je suis plus résigné. La mort m'apparaît comme un grand lac dont j'approche et dont les contours se dessinent. Suis-je plus sage ? Très peu. J'ai moins de ressorts pour être mauvais. Sur 42 ans, j'en ai passé 18 avec Marinette. Je suis devenu incapable de lui faire du mal. Mais de quel effort suis-je capable pour son bien ? Me lever, travailler, m'occuper des autres me fatigue. Ce qui est bon, je l'exécute encore assez bien. Dormir, manger, rêvasser sans effort. J'en vis aussi, et je dénigre. Où en suis-je avec la gloire ? Comme je ne l'aurai jamais, sans trop d'efforts, je réussis à la dédaigner. J'ai quelques remords, mais assez d'adresse pour me blâmer d'en avoir et les atténuer. Aucun, à franchement parler, ne m'est insupportable. Autrefois, j'avais peur d'agir quand c'était dangereux. Aujourd'hui, j'ai peur de l'action. Ou plutôt, j'ai le goût de l'inaction. Août 1906. Marinette m'a tout donné. Pourrais-je dire que moi, je lui ai tout donné ? C'est le seul être que je sois sûr d'aimer avec moi. Et encore moi, je me fais faire souvent une grimace de dégoût. Si j'avais du succès, si je gagnais de l'argent, si les femmes couraient après moi, est-ce que je ferais le dégoûté ? Je manque d'élégance. Il faut aimer la vie malgré tout. Il faut être un peu plus chic que ça. Allons donc. La vie est belle.
Gérard Mordia.
Je continue d'être un lecteur de Poils de Carotte, comme Jules Renard a toute sa vie continué à écrire Poils de Carotte. Il n'a sans cesse refait.
Qu'est-ce que tu fabriques sous cette table ? Et veux-tu répondre ? Poils de Carotte, ôte tes mains. Je finirai par te coudre tes poches, avec tes mains dedans.
Avant de venir, je me suis dit, tiens, je vais trouver le 1er 5 octobre que je vais au hasard. J'ai pas cherché une année particulière, j'ai cherché le 1er 5 octobre. Et je suis tombé sur le journal de 1897. Et que lis-je au 5 octobre ? Ne m'accusez pas de mentir. Du point de vue de la vérité, ce que je dis n'a pas plus d'importance que ce que j'écris. C'est toujours trop littéraire.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Richard Dufour à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Valérie Bourg. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.